mercredi, c'est ravioli.
Oh, des raviolis.
C'est mercredi.
Mercredi.
Ah, oui, mercredi.
C'est ravioli.
Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission. Bonjour Hélène.
Bonjour Marc.
Une fois par mois, le mercredi, c'est Ravioli. Une émission savoureuse, conviviale, garnie d'une farce riche et complète à base de découvertes, de musique, de numérique, de ciné et de bestioles variées.
Mais pas du tout avariées, hein. C'est ça la différence avec les raviolis en boîte.
Voilà, l'émission idéale pour toute la famille. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche, ma chère Hélène.
Oh oui, j'adore les farces. Et moi aussi, j'ai une famille.
Oh, c'est parfait. Et aujourd'hui, nous partagerons cette heure avec vous, chères auditrices et chers auditeurs, mais également avec Pascal Gobert, documentariste animalier. Bonjour Pascal.
Bonjour Marc.
Et Artus l'araignée. Bonjour Artus.
Bonjour Hélène. Bonjour Marc.
L'araignée est tombée dans la purée.
et également avec Cécile à la technique. Salut Cécile.
Et salut.
Faut presser sur les boutons pour que ça marche.
Et donc pour commencer, nous allons aller à la rencontre de Pascal. Pascal, vous êtes documentariste animalier, c'est juste déjà comme intitulé ?
Oui, alors moi-même j'ai du mal à définir mon intitulé. Donc je suis réalisateur, un caméraman et je travaille beaucoup sur des documentaires animaliers ou des documentaires qui parlent de la nature. Donc, documentariste animalier, oui, c'est pas mal.
Et donc, si vous pouvez nous parler un peu de votre métier, comment ça se passe ? C'est quoi votre occupation ?
Mon occupation. Donc, c'est assez compliqué, c'est assez vaste. En fait, on a du mal à le définir, c'est vrai, un seul mot. Donc, réaliser un film, c'est mener le projet du tout début, c'est-à-dire de l'écriture du scénario jusqu'à la fin. Et du coup, je passe l'essentiel de mon temps à réaliser. Sachant que je suis aussi donc caméraman, ça veut dire que je fais les images. En ce moment, je travaille sur des scénarios, mais qui ne sont pas des documentaires animaliers. Et voilà. Donc en fait, la majorité du temps, lorsque j'écris des scénarios, j'essaie de définir d'une manière ou d'une autre le rapport de l'homme à la nature, en fait.
D'accord, mais en tant que documentariste, c'est pas comme tourner un film en studio ou avec une équipe. Vous donnez pas le script à vos acteurs.
Comment ça peut être quoi un scénario, en fait?
Un documentaire animalier, un scénario, c'est assez niais en fait. C'est la petite araignée va vers la mare, trempe ses pattes dans la mare et puis je sais pas, un cri qui arrive à ce moment-là. C'est quelque chose d'assez niais. Et donc il y a une partie qui peut être faite en studio, si par exemple on travaille sur de la macro comme une araignée, comme un papillon souvent. Mais effectivement, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas contrôler nos acteurs, nous. Donc en fait, souvent, on attend que les acteurs fassent l'action qu'on souhaite voir paraître. Il y a deux possibilités, en fait, dans le documentaire animalier. Soit on fait appel à des animaux qui sont des animaux imprégnés, c'est-à-dire un renard imprégné, c'est-à-dire un renard dressé. C'est ce qui se fait en majorité pour les documentaires télé, en tout cas les documentaires français. Et l'autre possibilité, c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire que je vais dans la nature, je connais la biologie des animaux, ou je connais, on va dire, la théorie, et j'essaie ou j'attends que l'animal fasse l'action que je veux, en fait. Et c'est là où ça prend un temps qui est colossal. On peut passer un mois pour une seule image, par exemple.
D'accord, donc c'est un boulot où vous passez l'essentiel de votre temps à attendre.
Alors, à observer, je dirais. Oui, attendre. Mais oui, et peut-être attendre. Enfin, c'est assez délicat, attendre. Par exemple, un gars qui est... je sais pas, qui travaille, y a des gens qui travaillent toute leur journée devant un ordinateur. Moi, je peux dire, ces gens passent leur vie à attendre, ils sont devant l'ordinateur et ils sont là devant l'ordinateur. Moi, je suis dans la nature et j'observe la nature. C'est un peu le même travail. Je suis avec un livre, je bouquine. C'est une attente, oui, c'est vrai, c'est une attente, mais c'est pas une attente désagréable en fait.
D'accord, vous pouvez être devant un livre en train de bouquiner et quand même être attentif à ce qui se passe.
En fait, l'idée, c'est que de toute façon, si vous êtes dans la nature et que vous attendez, que vous n'avez pas envie d'attendre, il n'y a rien qui va marcher de toute façon. Il faut que vous ayez envie de faire les choses. Il faut que ça soit dans vous, en fait. Donc, au départ, souvent, ouais, moi, je me pointe, j'ai un bouquin, je bouquine. Je suis comme ça, je suis au soleil et j'attends que les choses se passent. Je n'ai pas ma caméra au départ. Je dirais que même 90% du temps que je passe dans la nature, je le passe sans caméra, sans appareil photo, sans rien. Et puis, en fait, le jour où je prends ma caméra, là, on passe à une autre étape. Là, je vais être caché et là, je vais attendre. Et là, il faut être extrêmement concentré et là... Là, c'est tout le travail du cinéaste animalier, c'est-à-dire apprendre à attendre, bien sûr, et à faire des mouvements très lents, à s'approcher, des choses comme ça.
Parce que le but, c'est que votre sujet ne vous repère pas, donc Il y a un petit jeu de camouflage ou
En fait, je dirais que c'est un jeu. Alors, le jeu, il y a un jeu de camouflage. Oui, oui, c'est vrai. On va dire qu'il y a. Ça dépend des espèces, on va dire. Et ça dépend même des individus lorsqu'on connaît bien les espèces. Ça veut dire que bah, des fois, il y a des renards qui sont assez sympathiques et on n'a pas besoin d'être camouflé. Et il y a des renards qui ne sont pas sympathiques du tout. Vous avez beau être camouflé, ils vous sentiront, ils feront le tour, ils vous détecteront, vous n'y arriverez jamais, en fait. Et du coup, chaque cas, chaque jour de tournage, chaque individu que vous allez tourner est un cas particulier. Et du coup, il faut apprendre, à aller vers ces animaux. Et du coup, le travail du cinéma à cet animalier, c'est un peu apprendre la nature, finalement. Sans se fier trop à la théorie, parce que la théorie, c'est les bouquins. En fait, on s'aperçoit vite que c'est pas vraiment vrai. Enfin, les grandes lignes sont vraies, mais après...
Donc, il faut apprivoiser son sujet. Enfin, il peut avoir conscience, donc, de votre présence et quand même se prêter au jeu de vous plus une machine et s'approcher.
Ouais. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça va être plus simple. Imaginons, je vais filmer un petit oiseau qui s'appelle le cincle plongeur, qui est un oiseau qui est très commun ici, qui est globalement assez simple à voir et même à filmer. Cet oiseau, il a un territoire qui est très délimité. On va dire, je sais pas, un carré de... je sais pas, de 200 mètres sur 200, en gros, on va dire, dans les gorges du Tarn, c'est ça, il y en a à peu près partout, mais il y a des individus qui sont plus craintifs que d'autres. Donc moi, je vais aller sur la rivière, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, savoir où est-ce qu'il va se percher, mais sachant que si j'attends trop longtemps, au fur et à mesure que la saison avance, il va changer de perchoir, en fait. Et ensuite, je peux me cacher. Donc je mets une tente, par exemple dans l'eau, je mets une tente, je me mets à l'intérieur de la tente, et j'attends que l'oiseau arrive sur son perchoir. Et là, après, je regarde comment l'oiseau, il va gérer les mouvements de ma caméra, parce que je vais bouger la caméra en fonction de là où il est. Donc souvent, il va avoir peur de la caméra. Donc il faut apprendre à l'oiseau à accepter la caméra. Comme dans un documentaire où on filme des humains, où on apprend à l'humain à accepter la caméra. Moi, je fais pareil, mais avec des animaux, donc ça prend beaucoup plus de temps. Puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais beau... enfin, mon oiseau avait accepté la caméra, mais il avait toujours peur de la caméra. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai mis une semaine à m'apercevoir que le soleil reflétait dans l'eau et l'eau reflétait dans l'objectif de ma caméra. Et donc là, je me suis dit, mince, en fait, il voit le reflet de l'eau dans l'objectif et il ne peut pas s'approcher de moi. Parce que l'oiseau, lorsque je le filme, il est à 3, 4, 5 mètres de moi, il est à côté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des DVD comme il y a partout, et je les ai mis partout dans la rivière, en fait. Et donc, en fait, l'oiseau, il a assimilé, au bout d'une semaine, il a assimilé l'objectif au DVD. Et donc, j'ai pu commencer à filmer cet oiseau. Donc, ça m'a pris 2-3 semaines avant d'arriver à le filmer. Juste à regarder l'oiseau, en fait, savoir où il allait, ce qu'il faisait. Voilà.
Et alors, au cinéma, on ne fait pas de regard caméra. Mais quand un de vos sujets fera un regard caméra, c'est quelque chose qu'on coupe ou on garde, justement, par rapport à cet apprivoisement ?
En fait, ça va dépendre du scénario. En général, si c'est un beau regard caméra, on va l'utiliser en général, puisque dans le documentaire animalier, on utilise beaucoup le champ contre champ. Et donc, imaginons, l'oiseau regarde la caméra, et puis de l'autre côté, on va mettre un renard qui regarde la caméra. On imagine du coup que l'oiseau va regarder le renard. Donc, plutôt en général, on garde. C'est plutôt quelque chose de bien. Mais la différence entre la photo et peut-être le cinéma, c'est que en photo, il y a un déclencheur, et l'oiseau ou l'animal, il entend. En général, quoi. Donc souvent, il va regarder l'appareil photo. Lorsqu'on est avec une caméra, les animaux, globalement, ils n'entendent pas, sauf s'ils sont très très près, sauf s'ils sont à moins de 1 mètre, ils n'entendent pas le bruit de la caméra. Donc, c'est pas, si un bon cinéaste évite les regards caméra, je pense.
Et après, vous parliez donc au début de cette interview du scénario de vos films, et ce qui frappe, en fait, hein, quand on découvre votre travail, c'est qu'il y a toujours une part d'onirisme, de poésie, enfin une réelle subjectivité, et c'est permis, ça, pour un documentariste d'être subjectif ou de donner un sens supplémentaire à l'image.
Je pense que, en fait, des gens de mon âge en France, on est une centaine à tenter de vivre du documentaire animalier ou de faire du cinéma animalier dans un sens plus large. Et du coup, il faut trouver sa façon d'être différent des autres. Moi, ma façon d'être différent des autres, c'est de parler de ce que j'arrive à faire, de ce que je ressens, de ce que je connais. Et du coup, je mets une subjectivité. Si un jour je fais un documentaire télé sur du cinéma avec du documentaire animalier, c'est sûr que ça ne passera pas. Ou alors, il faut que j'ai un nom, et à ce moment-là, ça peut éventuellement passer. Mais c'est compliqué. Donc ça passe si on fait un petit film qui est fait pour une institution, ou qui est fait pour Internet, par exemple, il n'y a aucun problème, si eux, ils l'acceptent, bien sûr. Mais je pense que c'est ce qui fait un peu la différence entre moi, mon travail, et le travail de mes amis qui font comme moi, en fait.
Et donc, c'est un peu votre signature. Et par contre, vous disiez, on est une centaine à en vivre, mais qui vous emploie ?
En fait, ça, c'est on me pose souvent cette question, mais en fait, vous vous rendez même pas compte, la vidéo, c'est un potentiel extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'une vidéo. Chaque association, chaque institution a besoin d'une vidéo. Le problème, c'est que ça coûte très cher, en fait. Donc, ça peut être, ça peut être des parcs nationaux. Ça peut être, j'ai été contacté pour des clips musicaux. Il y a vraiment tout, c'est très éclectique, quoi. En fait, ce qui est dur, c'est arriver à rencontrer les gens et leur expliquer que un film, ça coûte cher. Un film animalier, quand on filme des animaux, c'est quoi ? C'est 3000 euros la minute. Sinon, on ne peut pas vivre, quoi.
D'accord.
Donc voilà.
Et vous avez des espèces de prédilection ?
Alors, je n'ai pas des espèces de prédilection parce que je trouve que c'est dangereux d'avoir une espèce de prédilection.
Généralement, en fait, je me suis exprimé plutôt les mammifères ou...
Mammifères et oiseaux, globalement. Après, j'ai essayé de filmer un peu des chauves-souris avec un spécialiste des chauves-souris qui s'appelle Tanguy Stoclet, qui est très connu, qui, lui, a ses espèces de prédilection qui sont les chauves-souris. Après, moi, ça me plairait bien de filmer sous l'eau, par exemple. Je l'ai très peu fait. Je sais qu'il y a des gens qui sont très, très bons là-dedans. Mais non, je me mets pas. Moi, je me mets pas de mur. Tout est possible, tout est faisable.
Donc, vous pourriez faire un film sur notre invité Artus.
Lui, bien sûr, avec grand plaisir.
J'ai hâte.
il y a un mois, j'ai essayé de filmer des papillons, par exemple, que je faisais éclore dans ma maison, quoi. Donc, pourquoi pas une petite araignée. Ouais.
C'est mignon. En plus, on peut bouffer.
Et pour finir, peut-être, est-ce que vos œuvres sont visibles quelque part pour nos auditeurs?
Je pense que si on tape, je sais pas en fait, non, en fait souvent, alors moi ma démarche c'est je fais des films pour des gens et c'est ces gens qui mettent à disponibilité ces œuvres en fait, et je suis pas encore dans la démarche où j'ai un nom et puis je mets, j'ai pas de site internet, on peut en voir certaines sur internet, Pêcheur du Tarn, le dernier clip là pour l'ONF aussi, mais je sais même pas où on peut le voir, mais je sais qu'on peut le trouver sur Facebook. Et voilà, un jour, ouais, j'aurai un site internet, un jour peut-être.
Bon, du coup, même chose, hein, je ne sais pas si tout est disponible, mais par contre, ce que je peux confirmer, c'est que si on tape Pascal Gobert, enfin sur votre clavier, non ?
Ah, si, vas-y.
Ah, d'accord. si vous préférez pas.
Non, en fait, on peut taper Pascal Gobert, mais j'ai peur qu'on tombe sur des interviews.
Il y a des interviews de vous, ouais. Mais il y a également certains de vos courts-métrages, donc Pêcheur du Tarn, ouais. Où le regard ne porte pas.
Ah oui, ne porte plus. Oui,
ne porte plus, pardon. J'ai confondu avec une BD. Hein,
oui.
Sur pour le NEF, c'est...
Il n'y a pas de titre, c'est Récit d'une forêt imaginaire, la personne a appelé ça comme ça.
D'accord. Et Pascal, merci d'avoir été avec nous. Donc à partir de 19h, parce qu'entre-temps, il faut quand même qu'ils nous écoutent, mais à partir de 19h, donc, nos auditeurs pourront découvrir en ligne les œuvres qu'on vient de citer. Et merci de nous avoir fait découvrir votre métier de documentariste. On suivra ça de près.
Avec plaisir, à bientôt.
Et on va passer un peu à une petite nouveauté musicale que j'ai sélectionnée pour vous. Alors, vous savez ce que j'ai découvert ce mois-ci, Hélène ? J'aime la chill wave.
Non, si. Pas vous, Marc.
J'aime la chill wave. Alors, je ne sais pas comment traduire ça exactement. La vague du Chili, peut-être, mais je ne suis pas sûr que ça convienne à la légèreté de la musique que je vais vous proposer. C'est la musique de Lou Coco. Donc, Lou Coco, c'est une musicienne parisienne. On n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Souvent, elle a le visage caché. Elle cultive un mystère que je n'essaierai pas de percer plus en avant. Donc, il y a un seul EP disponible, quelques mix. Et puisqu'on aime bien citer nos sources, elle passe souvent sur la très bonne web radio, lemelotron.com. Donc là, je vais vous faire écouter un titre qui est tiré d'une Wildlife Session, un concert dans la pleine nature sauvage, si vous préférez. Donc,
le principe.
Ouais. Le principe, c'est que les artistes vont en pleine nature avec un générateur, ils démarrent l'électricité, puis ils sont tout seuls au milieu de la nature à faire leur live. D'ailleurs, ce clip que vous pouvez découvrir, donc Promises de Lou Coco, on dirait presque que ça a été tourné dans le coin. Et je vous laisse avec ça.
Mais c'est bien pour les araignées.
Aussi.
Don't
Vous êtes toujours sur Radio Barthas, aujourd'hui c'est mercredi et c'est Ravioli. Nous revenons maintenant avec une toute nouvelle rubrique sur les nouvelles techniques qui prennent tellement de place dans nos vies et qui nous inquiètent un peu. N'est-ce pas Hélène?
Oui, et décidément tout est nouveau hein, ce soir.
Tout est nouveau.
Bah oui, c'est une nouvelle émission et une nouvelle rubrique d'une nouvelle technique.
Il y a que les Ravioli qui eux sont...
Ancestraux. Exactement. Ouais, donc bah, je vais vous parler de Twitter aujourd'hui.
Oh bah. Comme...
Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, où est-ce...
On aurait eu tort de se priver d'un si beau jingle.
Exactement. Oui, donc, je vous parlais de Twitter. Et donc, on parle beaucoup de Twitter, et plus particulièrement en ce moment, quand l'actualité est brûlante. Donc, il est de bon ton de prendre un air entendu et de faire croire qu'on a tout compris aux histoires de hashtags, de tweets et de retweets. Parce que bah, sinon, bah, on n'est pas moderne, hein, on est has-been. Mais ça, c'est juste les argumentaires des publicitaires, hein, qui confondent délibérément nouveauté, modernité et progrès. Bon, après, c'est normal, hein, c'est leur job de nous faire consommer hein, par tous les moyens. Mais ne vous en faites pas, ceux qui vous en parlent, notamment les journalistes, en fait, ils ne savent pas forcément beaucoup plus que vous de quoi ça parle. Donc, ils contribuent à continuer le flou et la confusion. Et donc, d'ailleurs, ça fait le lit de le marketing. Donc, c'est quoi Twitter? Alors, je vais vous dire que c'est une application de microblogging. Alors, déjà, ça ne va pas vous aider beaucoup. Hein. J'ai dit ça, j'ai rien dit, parce que c'est incompréhensible. Donc, on va reprendre depuis la base. En fait, Twitter, c'est un réseau social sur Internet, donc comme Facebook, par exemple, qui est plus connu. C'est-à-dire que c'est un endroit où je me crée un compte et quand j'écris sur ce compte, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'écrire hein, quand on est sur Twitter, on peut aussi s'inscrire sur Twitter uniquement pour lire les tweets des autres. Donc, chaque fois que j'écris un message sur mon compte Twitter, tout le monde peut le voir, même les personnes qui n'ont pas Twitter. Il est visible sur Internet. Mais par contre, les personnes qui me suivent, qui se sont abonnés, ce qu'on appelle les followers dans le langage Twitter ou sous Facebook, on appelle ça les amis, mais là, ce n'est pas forcément des amis, en fait, sont particulièrement informés que j'ai écrit quelque chose, un nouveau tweet. Et comment sont-ils informés que je viens d'écrire un nouveau tweet pour dire, par exemple, j'ai mangé des raviolis à midi? Eh bien, quand on se crée un compte Twitter, donc, on a accès à deux pages. Notre page publique, qui regroupe tout ce qu'on écrit, et la page, donc c'est la page que tout le monde peut voir, hein. et mon fil d'actualité où sont rassemblés les messages, donc les tweets des gens que je suis, donc auxquels je suis abonné, mes amis ou pas amis, hein, des gens que je ne les connais pas, mais le sujet m'intéresse, ce dont ils parlent m'intéresse. Donc dès que quelqu'un publie un tweet, toutes les personnes qui le suivent voient le message dans leur fil d'actualité. Voilà, c'est comme ça qu'on sait particulièrement des informations. Et ce tweet n'est pas adressé à une personne en particulier, c'est pas un mail, mais ça s'apparente plutôt à un article publié sur un blog, c'est pour ça qu'on parle de micro-blogging. Voilà, il est public, tout le monde peut le voir. Donc un tweet par rapport à un blog, ça a la particularité de ne pas pouvoir être long. Ça fait que 140 caractères, donc on ne peut pas faire de la littérature ni des figures de style. Pour vous donner une idée, un tweet a la particularité de ne pas pouvoir être plus long que 140 caractères et ne peut pas faire de la littérature ni de la figure de style, ça fait déjà 142 caractères. Donc vraiment, c'est une phrase. Ce qui permet d'utiliser facilement sur les smartphones. Alors les smartphones, vous savez, c'est des ordinateurs qu'on met dans la poche et qui servent aussi de téléphone, mais en fait c'est des mini-ordinateurs, hein, pour vous donner une idée. Avec la puissance qu'il y a dans votre smartphone, en fait, on a envoyé un homme sur la Lune. Hein. Donc, mais c'est vrai. Hein. Donc c'est un mini-ordinateur qui fait aussi téléphone. Et des fois on appelle ça smartphone, mais des fois on utilise des marques, on appelle ça un iPhone, parce que c'est le modèle de la marque de chez Apple en fait. Mais bon, c'est un smartphone. Bref, donc sur ces petits écrans, c'est difficile d'écrire beaucoup. Donc 140 caractères, ça va bien, on ne peut pas écrire de la littérature parce que c'est tout petit. Et puis aussi, le fait qu'on utilise beaucoup sur les smartphones, ben, ça participe à la réactivité de Twitter, parce que sur smartphone, on l'a souvent sur soi, de jour, de nuit, n'importe où. C'est pas comme si on devait aller sur son ordinateur pour dire des choses genre « j'ai mangé des raviolis ». On peut le dire directement quand on est en train de manger des raviolis. Et donc, voilà. Et donc on peut tweeter, retweeter, les lire depuis son smartphone et aussi depuis son ordinateur. Et donc, on a parlé aussi de retweet. Alors, c'est quoi retweeter ? C'est la possibilité de publier sur son compte le tweet de quelqu'un d'autre. Ou plus exactement, de le faire suivre à nos abonnés, aux gens qui nous suivent. Donc, c'est-à-dire les gens qu'on connaît ou qui s'intéressent aux mêmes choses que nous, nos collègues, etc. Enfin, ça dépend du réseau social qu'on a. Et donc, quand ils voient le tweet, ils savent bien que ça vient de moi, mais ils savent que je ne suis pas l'auteur. L'auteur reste toujours. Donc, ce tweet-là, je trouve il intéressant, je le rebalance. Et donc, ça crée forcément un effet boule de neige qui est très fort sur Twitter. Plus l'information est croustillante, intéressante, et plus les gens qui me suivent et qui ont vu mon tweet sur leur fil d'actualité vont avoir tendance très très facilement en un seul clic de le retweeter. C'est-à-dire de le faire suivre. Alors, un exemple, hein, je suis à New York. Je vois DSK sur le trottoir sortir d'un hôtel avec les menottes et un policier de chaque côté, alors qu'il est le favori à la primaire du PS pour désigner le futur candidat à la présidence. Hop, je tweete avec mon smartphone. DSK est arrêté à New York et je joins un lien vers la photo que je prends de DSK. Donc vous imaginez qu'un truc pareil, en fait, même si j'ai 100 personnes qui me suivent, même si elles ne sont pas toutes derrière, il n'y a rien que 50 qui le retweetent. Si ces 50 personnes ont chacune 100 personnes, déjà en quelques minutes, on a 5000 personnes qui ont l'info. Et encore, quand je vous dis que j'ai 100 personnes, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à la moyenne. Hein. Et donc, en quelques minutes, il y a 5000 personnes, et ensuite 5000, 10000, etc. Et très très vite, quand c'est ce genre d'informations très croustillantes, comme ça, très importantes, en fait, ça devient le mot-clé le plus utilisé sur Twitter. Et donc, les 10 sujets les plus tweetés apparaissent en permanence sur Twitter, que ce soit sur le smartphone ou sur le site. Donc c'est comme ça que l'utilisent les journalistes en fait. Ils suivent en permanence quels sont les 10 mots-clés qui sont les plus tweetés, qu'est-ce qui occupe les gens. Si tout d'un coup DSK apparaît, ils cliquent, qu'est-ce qui se passe ? Oh, il vient d'être arrêté à New York, oh là là, et voilà, faisons quelque chose. Alors la plupart du temps c'est « Oh là là, Justin Bieber a changé de coiffure » ou « One Direction s'est foulé le petit doigt ». Enfin voilà, la plupart du temps c'est quand même ça. Hein. Ça reflète ce que les gens qui sont sur Twitter aiment. Hein. Twitter c'est un village. Hein. Voilà, et donc ça c'est le cas global des gens qui sont sur Twitter. Hein. Donc ce que je dis souvent c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, moi, la coiffure de Justin Bieber. Et par contre ce qui est intéressant c'est que je fais un réseau social et qu'est-ce qui intéresse ma communauté d'intérêt à moi, mon réseau social à moi, quel est le top news de mon réseau social à moi. Donc ça c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, si je suis fan de pêche à la mouche, hein, c'est pas vrai, hein, si je suis fan de pêche à la mouche, je vais suivre d'autres fans de pêche à la mouche. Et cela permet d'échanger entre passionnés. Regarde, j'ai pêché une truite grande comme ça. Et puis aussi de se tenir au courant des actualités qui intéressent ma communauté d'intérêt. Et avec le même effet boule de neige, en fait, s'il se passe quelque chose de super important dans le monde de la pêche à la mouche, je suis tout de suite au courant, ce que j'aurais pas dans les grands médias, parce que malheureusement, les grands médias, je sais pas, il y a une censure sur la pêche à la mouche, mais ils en parlent jamais. J'imagine que ça doit être censuré quelque part.
Sauf Lozère Nouvelle, je pense.
Ah oui, bien sûr, la Lozère Nouvelle. Oui, je pense que chaque ouverture, ils le disent. Et donc, dans l'océan de l'information sur le web, on se recrée une bulle informationnelle sur les sujets qui nous intéressent. Et donc, c'est le retweet, le fait de faire suivre, en fait, donc la redondance qui éditorialise. On ne sait plus sur un comité de rédaction d'un journal qui dit c'est ça l'information importante. C'est le fait que les gens de notre communauté d'intérêt le redisent. Exactement comme dans un village, hein, la rumeur, le truc dont tout le monde parle, qu'on sait que c'est ça le sujet qui est important. Donc, avec les avantages et les inconvénients, hein, les inconvénients, c'est toutes les rumeurs circulent. Les avantages, c'est pas des informations qui ne sont pas rediffusées par les médias classiques. Hein. On a eu le cas aux États-Unis avec le jeune homme noir là, qui s'était fait tuer par un policier alors qu'il était de dos et les mains en l'air. Et donc, les médias classiques n'ont pas relayé l'information parce que c'est encore un noir qui s'est fait tuer et donc c'est passé par Twitter. Et donc là, à ce moment-là, ça a pris tellement d'impact que les médias classiques ont dû relayer l'information. Alors, un des problèmes de Twitter, d'abord, c'est que c'est un système centralisé, en fait, et c'est fermé. On ne peut communiquer sur Twitter en dehors de Twitter, alors que Internet a été prévu pour être décentralisé, en fait. Avec l'émergence des géants comme Google, Facebook, Twitter ou Amazon, en fait, on se recrée des passages obligés tenus par un seul personnage, en fait. On recrée le Minitel. On doit passer juste par un truc. Donc voilà, super, champion du monde les Français, on est en avance sur notre temps, hein, le Minitel. Mais c'est ce qui est en train de devenir Internet. Donc c'est gênant. Enfin, c'est gênant parce que d'abord, ça, on facilite grandement le travail publicitaire et puis on le travail des services secrets également. Puisque comme tout le monde va au même endroit en même temps, eh ben, c'est beaucoup plus facile de choper les gens, de suivre ce qu'ils font plutôt que de devoir les trouver dispersés un peu partout sur le web. Voilà. Et notamment, comme on a donné tous nos droits à Twitter, ils ont le droit d'étudier légalement tous nos tweets, ainsi que ceux qui sont nos amis. Et comme les amis de mes amis s'intéressent aux mêmes choses que moi, on en déduit que si j'ai quelqu'un dans mes amis qui s'intéresse à la pêche à la ligne, ou si j'ai pas mal de gens qui s'intéressent, moi-même, je dois m'intéresser à la pêche à la ligne. Ce qui est toujours faux, je le dément toujours. Et puis donc, qu'est-ce que Twitter en fait ? Eh bien, il les revend pour avoir des pubs ciblées, en fait. Et puis, également, il crée des espèces de portraits robots. Parce qu'avec tout ce qu'ils récupèrent comme information, ils ont des portraits robots. Ils se rendent compte que statistiquement, en fait, beaucoup de gens qui aiment la pêche à ligne adorent leur atroc. Ils découvrent ça. Bon, c'est pas vrai non plus. Hein. Mais imaginons, ils découvrent ça. Donc, à partir du moment... Donc ça, ils le vendent ça à les publicitaires. Ils disent, voilà, dans les gens qui vont s'intéresser à la pêche à la ligne, il y en a tant qui vont s'intéresser à la drogue. Donc, ou l'inverse. Donc, ce qui fait que même si moi, je vais rien mettre sur le hard rock sur Twitter, mais que j'ai des amis qui mettent sur le hard rock, et j'en ai beaucoup, je vais avoir des pubs pour la pêche à la ligne. Voilà, c'est des espèces de profils, en fait, marketing, donc, qui sont vendus à des publicitaires et qui réussissent à agréger avec toutes les informations qu'ils ont. Alors, pour ce qui est de nos amis, les services secrets, alors eux, c'est un peu pareil, hein, puisque c'est pratique, ils n'ont qu'à se pencher pour savoir qui dit quoi sur le djihad ou sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou bien qui a parmi ses abonnés des gens qui parlent de la ZAD ou du djihad, hein, qui se ressemblent, ça semble, même si c'est pas moi qui en parle, c'est mes amis en parlent, c'est que ça, je suis d'accord avec eux. Et donc, la toute nouvelle loi sur l'enseignement a facilité les choses en rendant légales des pratiques existantes, mais pratiquées légalement. Donc là, il y a quelques jours, en fait, le ministre de l'Intérieur a demandé que Twitter supprime donc de ce top tendance des hashtags qui faisaient l'apologie du djihad. Donc ils l'ont fait. Donc avant, ils devaient passer par un procureur. Maintenant, ils n'ont plus besoin. Ils passent un petit coup de fil et hop. Voilà, c'est pratique. Et pareillement, en Espagne... Donc, on sait bien. Hein. Enfin, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Mais... Et de même, en Espagne, en fait, quand les partisans de l'indépendance catalane ont fait une grande chaîne humaine qui traversait la Catalogne, en fait, ils s'étaient mis d'accord. Donc, le hashtag, c'est un mot-clé, en fait, sur lequel on se met d'accord pour parler des mêmes choses. Donc, on le reconnaît parce qu'il y a un dièse devant. Ils s'étaient mis d'accord sur le mot Via Catalana et puis ils se rendaient compte que ça n'apparaissait pas du tout dans le top 10. Alors, il y a une radio indépendantiste qui a dit aux gens qui étaient là, bah, maintenant arrêtez d'utiliser Via Catalana, mais utilisez Croquetas. Tout le monde l'a fait et très vite, Croquetas est apparu dans le top 10 des mots les plus tweetés sur Internet. Voilà. Voilà, donc là, on est en Europe, hein, dans un pays bon, qui n'est pas depuis très longtemps démocratique, l'Espagne, mais quand même qui est censé y être. Voilà, donc le problème un peu, bah, c'est le paradoxe des réseaux sociaux. Hein. Il existe des réseaux sociaux qui sont plus éthiques, qui sont plus distribués, qui ne sont pas dans un pays qui a le Patriot Act, mais qui n'a pas des gens dessus. Donc, je vous ai dit, c'est un village, hein, Twitter, donc vous avez le choix. Soit vous allez au café d'à côté où il y a tous vos potes qui vont, mais franchement, le patron, il ne vous revient pas. Ou vous allez prendre l'apéro tout seul dans le café d'à côté où le patron est sympa, mais il n'y a personne. Voilà, c'est un peu le problème de ce genre d'outils. Donc, à vous de faire le choix où vous mettez votre curseur. Voilà, donc c'est fini pour cette fois. Surtout, ne me croyez pas sur parole, hein. vérifiez, complétez, échangez et faites confiance à votre intelligence.
Merci Hélène pour cet éclairage sur les nouvelles technologies. Donc 3615 Ravioli si vous voulez réagir. Donc hashtag Ravioli.
Mais on y revient.
On y revient. Et nous recevons maintenant notre deuxième invité, Artus Erésus Ducos.
Son cri est long et puissant.
Toi, le Yeti ? Le Yeti est une sorte de grand singe triste qui dort debout et dont le cri ressemble effectivement à celui de la chouette.
Donc Artus, merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc une araignée du terroir, une Erésus plus exactement. Artus, l'Erésus, ils avaient de l'humour de vos parents quand même, hein. Mais bon, enfin, soit. Artus, pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce que la vie d'une araignée du Cos ?
Oui, bah, en fait, en ce moment, je dois vous dire que là, ça va être de plus en plus tranquille pour moi. Alors, on est plusieurs araignées, hein, on a une grosse famille, j'ai plein de cousins, cousines. Mais alors, moi, sur ma petite famille Erésus, c'est un peu particulier, on n'est pas très actifs. Enfin, vous voyez, globalement, sur les 12 mois, si on en parcourt deux dehors, eh ben, on est pas mal crevé. Donc, sur les deux mois restants, en plus, alors je ne veux pas être sexiste, hein, parce que vous savez, chez les araignées, il y a un petit souci de taille entre la femelle et le mâle. Hein, elles sont quand même deux fois plus grosses que nous, donc j'évite de faire des grosses blagues là-dessus. Mais en général, il n'y a que nous qui bougeons. Alors voilà, c'est quand même un gros souci. On a essayé de protester, manifester, et il se trouve que dans d'autres familles, les mâles ont été mangés. Donc on s'est dit non, on va rester comme ça, on va garder le rythme. Et donc voilà, pendant deux mois, de septembre à novembre, en gros, chez nous, eh ben on est en pleine action, on va rechercher les femelles, on fait « Waouh, les filles, est-ce que ça vous dirait d'avoir des enfants ?» On essayait un minimum de la jouer petit, on fait des petites offrandes genre « Tiens, c'est une mouche, si t'en profites pour la manger, on pourra avoir des enfants ensemble sans que je me fasse manger moi-même. »
Donc vous n'êtes pas très fan, il faut drague dans votre famille.
Non, non, c'est pas. Alors c'est pas ce qui nous caractérise le plus. Hein. Je dois dire qu'on a des. On peut dire qu'on a un peu les pétoches à chaque fois qu'on rencontre une femelle. Surtout qu'elles sont. Alors nous, on est grosso modo à une taille de 1 cm, 1,5 cm. Elles sont plutôt à 3 cm. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, imaginez, par exemple, Marc, que vous allez en ville et vous tombez sur une femelle qui fait 3,60 m. Ça a le don de
calmer. Calmer. Pourtant, cette petite robe rouge et noire, ça impressionne quand même.
Alors oui, alors ça, contrairement à beaucoup, je veux dire qu'on a un look d'enfer. Alors, comme toutes les araignées, on a notre corps, il est en deux parties, hein, la tête. Alors chez nous, les Erésus, la tête est grosse et importante. Pas forcément très pleine, hein. J'ai des copains, ils sont pas fut-fut. Mais et après, l'abdomen, lui, chez nous, il est rouge, avec quatre gros points noirs. Alors, on n'a jamais su si c'était pour faire peur ou pour nous repérer. Mais on pense quand même à courir très vite dès qu'on sort dehors. Parce qu'on n'est pas très rassurés. Et la femelle, elle est jolie. Non, si, je vais dire qu'elle est jolie, mais elle est quand même toute noire et pas très colorée.
Mais jolie, hein.
Mais jolie quand même, oui. Et après, on est quand même des araignées plus marcheuses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se la pètent en mettant des toiles partout. Alors surtout pour que les gens se les mangent en plein visage. Mais c'est vrai que nous, chez nous, on est plus marcheuses. Et puis on se met dans des... on est plus dans des creux de terre. En fait, on va faire des tubes, ce qu'on peut appeler des chaussettes, qui vont. On va creuser dans la terre, faire des tubes, on va créer une toile à l'intérieur, et on va juste laisser déborder une petite opercule. Et du coup, tous les autres insectes qui vont passer sur cet opercule vont du coup être collés à la toile. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir récupérer notre dû, notre manger, l'amener au fond de la grotte, hein, un peu pour chez nous, et tranquillement le mettre dans un petit cocon. Et puis après, aller refermer la toile tranquillou bilou, sans que personne n'ait rien vu. Et c'est vrai que chez nous, on a une capacité à faire des toiles qui vont être assez différentes, en fait. Pour les araignées, en général, on a 7 types de toiles différents. Alors, je ne sais pas si
vous imaginez. Des vrais artistes.
Mais c'est assez grandiose. Alors, comme je disais, il y a celles qui se la racontent en mettant des toiles orthogonales, des toiles jolies et tout ça. Mais après, les six autres types de fils, c'est pour faire des cocons pour nos jeunes, pour les protéger, pour faire des cocons pour manger ce qu'on a envie de savourer, ou tout bêtement pour il y a un terme qui comme ça je peux un peu me la péter, c'est le swarming. Alors je sais pas si vous êtes fan de Spider-Man, mais à un moment donné, Spider-Man, quand il veut aller d'un point A à un point B, il envoie des fils comme ça, d'immeuble en immeuble, et il se balance, hop, d'ordinant, hop, un peu le building là, un peu le building là, et ben en fait, il a tout copié sur nous, bien évidemment. Hein. Et,
parce que vous faites ça entre les buildings, du coup ?
Alors non, c'est vrai qu'il faut ramener à l'échelle, on fait ça entre les brins d'herbe, mais déjà pour nous c'est énorme, et c'est assez spectaculaire.
Hein. Il a copié aussi votre couleur ?
Oui, oui, alors totalement. Et alors c'est vrai que nous on n'a pas de truc bleu, hein, de taches bleues, on est plus resté assez sobre sur le dos rouge, les points noirs, et puis au niveau des pattes, on s'est mis quelques petits reflets orange sur les pattes postérieures, mais du coup, on n'est pas dans la vulgarité du bleu.
Et donc, Artus, vous avez un an, on peut dire que vous êtes en pleine force de l'âge, et du coup, vous êtes déjà installé en ménage avec des enfants. Quelle est votre vie aujourd'hui ?
Moi, aujourd'hui, enfin, un an, je me sens en pleine forme. C'est vrai que j'arrive à la moitié de mon âge, donc je commence à me dire que... Bah,
la crise de l'année approche.
Ouais, et puis les choses commencent à être derrière moi. C'est vrai que pendant plusieurs mois, je suis resté avec maman et les frères et sœurs. On était un peu une centaine quand même dans un petit tube. On s'est senti serré, mais bon, c'est bien pour passer l'hiver. Après là, j'ai commencé mes premières dragues, j'ai été voir à droite, à gauche. Là, plus pour l'hiver... Je vais me recentrer sur moi-même, réfléchir au fond de ma grotte, savoir qui je suis et comment je vais vivre ma dernière année. Et c'est vrai que les femelles ont plus de chance parce que elles qui bougent pas en fait, qui restent dans leur tube, et ben elles peuvent vivre jusqu'à 4 ans si les conditions sont bonnes.
Ça veut dire que vous n'avez pas encore rencontré l'amour ?
Pour te dire, j'ai eu des petites amourettes, mais non, je pense que j'ai pas rencontré l'âme sœur.
D'accord, si on peut passer un appel. Hein.
Oui, alors on peut là.
Oui,
c'est vrai que s'il y aurait une autre Résus, alors je sais que bah, vous avez tendance, les humains, à classifier les choses. Alors maintenant, le nom qu'on m'a donné, c'est Résus Colari. Et avant, c'était Résus Niger. Alors je sais pas. Que tu t'appelles Résus Niger ou Résus Colari. Moi, je suis Artus, j'ai un an et je suis plein de forme.
Juste avant l'hibernation, pour se retrouver à deux dans le nid, c'est bien ça ?
Oui, voilà. Alors, après, c'est pour pas tout cacher, c'est vrai qu'on aime bien faire chambre séparée,
okay.
Même grotte séparée. Et,
c'est important de le savoir.
Ouais, se retrouver que au pic d'activité à l'automne ou au pic d'activité au printemps.
C'est romantique.
Je crois qu'il faut garder un peu de distance, surtout chez les araignées.
Un peu de secret.
Voilà, c'est vrai que chez les araignées, on n'est pas très très social. Il y a bien en Guadeloupe ou en Guyane des araignées qui sont toutes dans la même toile. Donc alors c'est sûr que c'est des toiles grand luxe. Hein. Les toiles font 12 mètres de long, 4 mètres de haut, et puis elles sont toutes là à faire la fête tous les soirs. Mais nous, en Europe, on est plus recentrés sur nous. On est plus indépendantes, on aime le soir rentrer, lire. Et du coup, c'est vrai qu'on est plus seul.
Bien, Artus, merci beaucoup d'être venu jusqu'au studio. Ça fait quand même une petite trotte hein, pour une araignée depuis le Causse.
C'est sûr.
On va vous laisser retourner à votre hibernation. Espèce de feignasse.
Excusez-moi,
ça m'a échappé.
Non, je ne sais pas si on peut dire que je suis feignasse, mais c'est sûr que ça va faire du bien.
Et donc, pour poursuivre cette émission, nous vous proposons maintenant une petite pause disco. Avec Marie Chaptal, certainement une fille du pays, peut-être du Causse, hein, vu son nom. Ce qui ne fait qu'ajouter à son charme. Elle est jolie aussi, hein, comme vos femelles.
Merci.
En 1979, Marie nous chantait « Pense pas et danse ». Allez, chante Marie.
Oh, parle.
C'est toujours mercredi, c'est toujours les raviolis, et c'est la rubrique cinéma.
Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sors, qui je suis ! Je suis cinéma !
Et c'est avec Marc.
Oui, donc les cinéphages associés ayant pris leur retraite cette année, un peu style araignée, hein, je reviens ce mois-ci avec une petite
feignasse.
voilà. Avec une petite rubrique sur l'actu ciné. Alors qu'allons-nous voir ces prochaines semaines ? Plein de choses. Ça tombe bien, il va faire moche, les salles sera plus intéressant à fréquenter que les terrasses et les bords de rivière. Donc pour commencer, ce soir à 21h, c'est le retour de Tom Cruise dans Mission Impossible. Malheureusement pour vous, il m'est impossible de parler plus longtemps de spook scientologue. Donc on passe à la suite. Samedi 21 à 20h30 et dimanche à 15h, Cineco nous emmène à Milan avec la retransmission en direct de la Traviata de Verdi. Passer le week-end à l'Opéra de Milan, moi je trouve ça assez chic. Je nous réserve une place au balcon, Hélène ?
C'est tout ça pour faire une blague comme quoi il y a du monde au balcon, c'est ça ?
Même pas. C'est votre petit côté araignée là qui ressort. Mais vous êtes très jolie. Mercredi 25 novembre, retour aux horaires normaux pour Cineco avec Diffrette. Diffrette, c'est l'histoire vraie d'une avocate éthiopienne qui prit la défense d'une ado accusée d'avoir tué son agresseur. Le procès a marqué l'histoire de son pays puisque, depuis, enlèvement et viol sont passibles de peine de prison. Bon d'accord, je viens de vous dévoiler la fin, mais évidemment dans ce genre de documentaire, c'est plutôt le déroulement et le processus qui a mené à ces décisions qui est important. Le film sera précédé du court documentaire Fatouma et Asia, projeté dans le cadre du mois du film documentaire En Languedoc-Roussillon. Et on est à nouveau ici face à une histoire vraie encore, de mariage forcé parmi les peuplades afar d'Éthiopie. Cette programmation se fait d'ailleurs en collaboration avec l'association EWA, Ethiopian Women Association, qui animera certaines séances, hein, à préciser sur le site de Cineco, cineco.org. Donc merci à elles, hein, pour leur engagement. Profitons d'ailleurs pour faire une parenthèse sur une autre projection organisée dans le cadre du mois du film documentaire. Le cadre du mois du film documentaire, c'est un peu long tout ça, hein, ou le mois du cadre, j'aurais pu me tromper. À la bibliothèque Roger Sibien à Florac, le réalisateur Christophe Petro viendra lui-même nous présenter son film Sali Hassanou et le corps voyage. Le film se consacre au chorégraphe burkinabé Sali Hassanou, disciple de Mathilde Monnier et habitué de Montpellier Danse. Alors, je ne connais pas Sali Hassanou, je n'y connais rien en danse contemporaine ou africaine, mais un élément me plaît énormément dans sa bio. Je cite, hein, « Sali Hassanou entre à l'école nationale de police de Ouagadougou au milieu des années 1980. Il décide alors de suivre une formation d'art dramatique avant de s'orienter vers la danse africaine. » Donc voilà, si ce film pouvait donner quelques idées à nos gendarmes, j'attends avec impatience leur prochain spectacle. Mais en attendant, ils sont les bienvenus ainsi que le reste du public floracois le 26 novembre à 18h30 à la bibliothèque. Roger Sibien, donc avenue Jean Monestier, tout ça. Mercredi 2 décembre, pour revenir à la programmation de Cineco, là c'est vraiment mon coup de cœur, hein, je vous recommande très très chaudement d'aller voir Asphalt, le dernier film de Samuel Benchetrit. Après le magnifique « J'ai toujours rêvé d'être un gangster » qui réunissait Bachung et Arnaud dans un dialogue de pissotière inoubliable.
Oui, enfin, plus que ça, c'était super.
Oui, oui, voilà, l'ensemble était super, on est d'accord, hein, mais bon, c'était pour c'était un élément du... j'aurais pu citer autre chose que le dialogue de pissotière, on est d'accord, bon, j'y repenserai. Samuel Benchetrit revient ici avec une chronique burlesque et poétique de la vie en banlieue. Donc ça se passe dans une tour. Au sommet de la tour, on a un astronaute russe qui atterrit chez Madame Hamida et qui doit y rester planqué le temps que les officiels étouffent un peu l'affaire. Un peu plus bas, Jeanne Meyer, interprétée par Isabelle Huppert, enfile les vodkas et se noie dans la nostalgie de sa carrière d'actrice, un peu passée, avec son ado de voisin. Au premier, il y a Sternkowitz, alias Gustav Kervern, qui, par un malheureux concours de circonstances et de mesquinerie, se retrouve en chaise roulante et contraint de se nourrir uniquement au distributeur de sucreries de l'hôpital voisin. Au passage, il s'invente également un personnage de photographe pour séduire l'infirmière qu'il croise toutes les nuits. Avec ces trois couples de personnages déboussolés, imparfaits, communs et extraordinaires en même temps, Ben Chetrit nous invente des fables modernes. Alors il ne magnifie pas pour autant la banlieue ou ses habitants façon Amélie Poulain, c'est un peu gris, c'est un peu triste, et pourtant on les aime tous sans condition, on sent bien dans ce film. C'est un feel good movie, enfin je veux dire un je me sens bien film qui sera parfait pour l'hiver. Donc Asphalt, je le répète, c'est le 2 décembre à Florac, et pour le reste, la programmation dans les autres villages, rendez-vous à nouveau sur cineco.org. Ensuite, le vendredi 4 décembre, La Nouvelle Dimension nous invite à la rencontre du grand Clint Eastwood, un acteur classique devenu réalisateur classique et également républicain classique, qui nous sera présenté par Bernard Benoliel, le spécialiste du sujet à la Cinémathèque française. La soirée nous donnera l'occasion de visionner ensemble Un Monde Parfait, de Clint donc, avec Kevin Costner en fuyard preneur d'otages. Donc une cavale et une belle histoire d'amitié texane entre un homme et son petit otage. Bon, je déconne, mais en fait ça va vraiment être bien parce que Clint, malgré son statut de VRP de la National Rifle Association, enfin vous savez, c'est cette association qui a envie de donner des flingues à tous les gamins américains, mais enfin voilà, malgré ses idées souvent limites, Clint Eastwood a oublié d'être un mauvais réalisateur. C'est un peu comme Twitter, hein, où on se demande à qui ça appartient, où est le cerveau, mais enfin voilà, le résultat peut être utile, intéressant.
Donc en fait, il vaut mieux pour toi prôner l'usage des armes qu'être scientologue. Dans ton palmarès,
c'est compliqué.
Bon, on met en dessous les scientologues qui promulguent l'usage des armes, ça c'est sûr.
Et Mission Impossible en particulier fait la promotion d'armes avec du divertissement bas de plafond et avec un abruti de scientologue à l'écran. Donc oui, entre Clint et Tom Cruise, je choisis Clint. C'est décidé. Enfin, le 9 décembre à Cinéco, c'est le retour d'Audiard avec sa palme d'or d'Ipan. Là, c'est l'histoire d'une femme, d'un enfant et d'un ancien soldat sri-lankais qui se font passer pour une famille heureuse pour traverser les frontières et se réfugier en France. Alors c'est marrant, ça me rappelle un film avec Jennifer Aniston, les Miller et une famille en herbe. Il y avait Jennifer et ses copains qui faisaient une fausse famille pour passer de la cam à la frontière mexicaine. Et c'était super drôle. Bah ici, ça ne le sera pas. Connaissant d'hier, ce sera réaliste, percutant, un peu à l'image de la vie, et parfois on aimerait que ça ressemble un peu plus à une comédie américaine, mais ça sera bien, encore. Voilà, j'espère que vous avez pris note parce que c'était assez dense, sinon écoutez régulièrement l'agenda de Bartas, ils sont gentils, ils vous rappelleront tout ça. Et nous approchons maintenant de la fin de l'émission, et c'est traditionnellement, enfin depuis au moins aujourd'hui, le moment où Hélène la ramène, n'est-ce pas Hélène?
C'est beau, hein. Et puis c'est émouvant. Et puis les paroles, elles sont bien aussi, hein. Ouah, j'en ai les poils qui se hérissent partout. Partout. Même ceux qu'on n'épile pas que l'été, parce que l'hiver, ça se voit pas, alors on s'en fout, hein. Non, et puis la Marseillaise, ça va bien avec ce bleu, blanc, rouge qu'il y a partout, en fait. Sur l'Empire State Building, sur la Tour Eiffel, et même sur la porte de Brandebourg. En 1914, les Piu-Piu partaient nach Berlin en rêvant d'accrocher le drapeau français à Berlin. Ben ça y est, c'est fait. Ils ont juste pris le train à la gare de l'Est 101 ans trop tôt, mais bon, ça arrive. Non, c'est bien cette vague bleu, blanc, rouge parce que ça va avec tout. Cécile, qui elle aussi est à fond dans cette nouvelle tendance, nous a montré avant l'émission qu'elle avait une culotte tricolore. Il n'y a pas à dire, c'est saillant. Allez, vas-y, remontre-la. Non, mais tu peux, hein, c'est pas filmé, hein. C'est pas Radio France ici, hein. On dépense pas des millions d'euros pour installer des caméras dans les studios, ni pour rénover des boiseries précieuses dans le bureau du directeur. Le bâtiment est plus un labartas, hein, c'est du bardage sapin traité à l'huile de vidange. D'ailleurs, ça m'arrange. Pas le bardage, ni Antonio. Antonio, ça m'arrange. Non, mais qu'il n'y ait pas de caméra, hein, parce que j'ai plutôt un physique de radio et une épilation en mode hiver. Donc Marc, lui, il a un slip belge. Eh ben, c'est vachement pratique, hein. Surtout quand t'es une fille. C'est rouge devant, pratique quand t'as tes règles, que le tampon qui est censé te permettre de faire du cheval et de la natation durant tes règles, même si c'est débile parce que tu n'en fais jamais, parce que t'aimes pas ça, parce que ça fait mal aux fesses et qu'il faut s'épiler même l'hiver, fuis. Là, j'avoue que seuls les habitués de la prose de Proust ont pu suivre la phrase jusqu'au bout. Donc, noir derrière, Ça, c'est pratique quand tu as la déripette, ça ne se voit pas. Et jaune au milieu, vous l'avez du nez, hein. Ah, c'est pour la réserve de frites. Non, le slip français, lui, est plus classe. C'est ça l'élégance française. Hein. Donc pareil, devant c'est rouge et c'est pratique pour la même raison qu'en Belgique. Hein. C'est-à-dire pour la période qui fut pendant des siècles la période de soulagement. Ouf, je ne suis pas encore enceinte. Blanc au milieu parce que la femme française est toujours impeccable et Cécile ne me contredira pas. Et bleu derrière, c'est pour quand la femme a ses règles dans les publicités pour les serviettes hygiéniques. Et oui, nos écrans de cinéma ont des jeux vidéo, sont pleins d'hémoglobine au litron, mais dans les culottes des femmes, le sang est bleu. C'est peut-être une analogie avec le sang bleu censé couler dans les veines de la noblesse. Ce qui expliquerait d'ailleurs que les tampons et les serviettes soient taxés à 20%, comme des produits de luxe. Mais quittons la culotte des femmes pour retrouver un sang également impur, mais qui lui abreuve nos sillons, pom pom pom. C'est sympa, disais-je, tous ces bâtiments partout dans le monde, revêtus des couleurs tricolores. Même au bout du monde, l'opéra de Sydney, la ville, hein, pas l'animateur de télé qui faisait H.I.P., H.O.P. ou le Christ de Rio. Mais c'est peut-être un peu exagéré par rapport à ce qui s'est passé vendredi, non? Un peu disproportionné, vous trouvez pas? Bon, d'accord, on les a battus les cheleux, pardon, les Allemands. Et 1 et 2, 0. Ok, mais est-ce que ça mérite autant de dépenses électriques juste avant la COP21? Et puis, ce ne sont plus des ennemis, les Fridolins, enfin les Allemands, ce sont nos frères d'outre-Rhin. Et donc, c'est normal qu'on se taquine un peu entre frangins, qu'on se titille. Ben ouais, je continue à commémorer ta défaite, frangin. Quand avec mes potes, t'as foutu la pâtée, il y a 100 ans, mais oui, c'est un jour férié, ha ha ha. Bon, il faut faire gaffe quand même à pas trop l'emmerder, faut pas trop lui chatouiller trop longtemps le casque à pointe ou cousin Germain, sinon ça a vite fait de te remitelleriser la roue en moins de deux. Et c'est pour ça que je vais pas insister sur le slip allemand en cuir avec les bretelles garantie 30 ans, das slip. Bon, je vais arrêter là aussi parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Je pense que c'est l'effet ravioli. Hein. On s'appellerait mercredi c'est brocoli, les mômes, ils seraient pas devant les postes. Hein. Ils seraient restés dehors à jouer sagement avec des grenouilles qu'ils font fumer pour les faire exploser ou avec des papillons auxquels ils arrachent les ailes pour vérifier s'ils arrivent toujours à voler. Ah, la naïveté et la beauté de l'enfance, que le législateur a bien raison de protéger à grands coups de lois liberticides. Oui, j'ai le droit d'intercepter tous les appels téléphoniques de toutes les personnes présentes dans cette manif, mais c'est pour combattre les pédophiles. On sous-estime encore trop le nombre de pédophiles opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, juste parce qu'ils avaient l'habitude de faire disparaître les petits cadavres violentés dans les marais. Ah, elle a bon dos la protection de la mouche drosophile. Ce ne serait pas plutôt le moustachu pédophile que vous protégeriez? Franchement, avec de tels arguments, c'est des coups à ne plus faire d'enfants, juste pour les emmerder. Allez, vive la vasectomie, et je peux même prêter les ciseaux. Et vive la sodomie, je prête le gel à base d'eau. Et on va voir ce qu'ils vont trouver comme excuse pour nous surveiller. Hé, hey, stop. Lâchez cette paire de ciseaux, Marc. Ce n'est plus la peine, ils ont trouvé. Ce sont les terroristes djihadistes. Il faut vite encore plus de lois liberticides. Il faut encore plus de contrôle, plus de militaires, plus d'arrestations, plus de policiers, plus de surveillance, de plus de monde, plus de déclarations martiales pour faire passer la pilule. Nous sommes en guerre. Et encore plus de bleu, de blanc, de rouge. Cécile, la culotte tricolore se porte maintenant sur le pantalon comme Superwoman. Et plus de Marseillaise. Et vas-y, rebalance-en encore un petit coup. Au fait, Marc, vous pouvez garder les ciseaux, mais utilisez-les plutôt pour couper la barbe, c'est plus prudent pour les temps qui courent. Hein. Et puis, il vaudrait mieux les désinfecter avant quand même. Voilà, c'est bien ça, Cécile, c'est beau. C'est viril comme une déclaration de François Hollande quand il copie les discours de George W. Bush. Allez, balance l'hymne américain. Non, encore mieux, l'hymne allemand, maintenant. Ah non, zut, c'est vrai, l'Allemagne n'est pas en guerre contre le terrorisme. L'Allemagne n'est même pas en guerre du tout. Quand François Hollande répète à l'envi que nous sommes en guerre face à une armée djihadiste, Angela Merkel préfère déclarer « Nous vivons de la compassion, de l'amour du prochain, de la joie de faire partie d'une communauté. » Quand en juillet, Nicolas Sarkozy appelle de ses voeux la guerre totale contre le terrorisme, Angela s'en garde bien, car elle ne fait pas d'oublier, elle, que l'idée vient de Goebbels. Quand l'Europe ferme ses frontières et pense à ériger des murs, Angela essaye de les convaincre d'accueillir plus de réfugiés. Peut-être aussi parce qu'elle se souvient qu'elle est née elle aussi derrière un mur. Angela, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais quand tu préfères parler de joie, de compassion, d'amour plutôt que de guerre, alors ouais, je reprends toutes les bêtises que j'ai dites sur les Allemands. Et ouais, d'accord, t'es ma frangine. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'ils ont perdu vendredi. C'est parce que c'était un match amical. Mais allez-y. Mais je n'en ferai rien. Et donc schön, bitte schön. Ça me semblait bizarre aussi qu'ils perdent au foot les Allemands, surtout contre les Français. Quoi, je rêve? Je me crois dans le monde des bisounours? Je me crois chez Disney? Bon, d'abord, moi, j'aime bien vivre dans le monde des bisounours. D'abord parce que j'ai la même carrure qu'eux, notamment au niveau des abdos. Ensuite, parce qu'ils sont pas obligés de s'épiler, nulle part, même l'été. Et puis enfin, parce que j'aime bien avoir des gros dessins multicolores sur le ventre. Quant à Disney, je suis moins d'accord. Hein. C'est quand même plus chelou, Disney, non? On parlait de slip et de pédophilie tout à l'heure, mais Mickey, au début, là, il avait juste un slip. Et Donald, il en porte jamais. C'est un peu limite pour les gosses, non? Si un jour vous faites une soirée à thème Disney et que vous décidez de vous déguiser en oncle Picsou avec juste une redingote et un chapeau claque, évitez d'inviter des gosses. Hein. Enfin, quoique pour les Québécois, les gosses seront déjà là de façon visible. Bon, mais je connais un autre Mickey qui, lui, met un slip et aussi un pantalon et même un t-shirt et c'est Mickey 3D. Bon, en fait, Mickey 3D, c'est un groupe des coins de Saint-Etienne, mais il y a quand même un Mickey, c'est le chanteur et guitariste Michael Furnon. Il commence au milieu des années 90 avec Aurélien Johannin à enregistrer des chansons à la maison et bidouiller des cassettes démos avec des moyens du bord. Il faut attendre 99 pour que sorte le premier album, Mystère qui torture, qui reprend des morceaux des cassettes de démos. Et donc, c'est cet album qui est aussi la chanson que je vais passer juste après. Donc, ça ne rajeunit pas, c'est 99. Ensuite, il tourne pas mal en première partie de Louise Attaque, en 2001, un nouvel album. Mais c'est en 2003, avec la chanson Respire qu'elle cartonne. L'album s'appelle Tu vas pas mourir de rire, phrase qui est tirée de la chanson Respire, justement, et qui n'est pas très prophétique, parce que maintenant, on le sait depuis janvier, on peut en effet mourir de rire. Par contre, la chanson qui suit reste et de plus en plus d'actualité. La France a peur, bouh, tous les soirs à 20h.
Tous les sa peur. Tous les soirs 20h, la police vous parle.
Et bonjour.
Alors vous voyez au Soudan, il y a eu 2660 000 morts. Non, on n'a rien à branler du Soudan. Parce que tu vois, il y a Sherman, elle s'est coupé le doigt. Et ça fait vachement mal de se couper le doigt. Et Marseille, il fait des chaussures en bois. Je vais se manchonner les chaussures en bois. Alors tu vois, les mecs, ils sont super loin. On n'a rien à branler. Mais alors rien du tout, parce que c'est super bon les chaussures en bois. Alors on n'a rien à foutre.
C'était la première de Mercredi, c'est Ravioli, émission mensuelle qui sera rediffusée demain, donc aujourd'hui si vous écoutez.
Waouh, il y a des restes de Ravioli.
Voilà, donc à midi, c'est Ravioli, jeudi midi, ça reste Ravioli. Donc on se retrouve donc le 16 décembre, quand je dis on, c'est vraiment avec moi, parce que Marc il part faire El Gringo
si.
Pendant un mois, donc ça sera vraiment une émission spéciale Hélène. Voilà, moi je me suis régalée, les raviolis étaient vraiment bien cuisinés. Encore merci donc aux autres personnes qui ont permis de cuisiner ce délicieux repas, et notamment à Pascal et à Jimmy en fait.
C'était un plaisir.
La petite araignée. Voilà, merci aussi à Cécile.
Merci et à vous donc, Hélène.
Voilà. Oui, merci à vous et bon voyage Marc. Donc Marc, on ne le revoit pas avant 2016. Et puis bah, à bientôt, bon appétit et bon ravioli.
À bientôt.
Aujourd'hui mercredi, c'est ravioli.
We're having ravioli.
Oh, c'est ravioli.
C'est mercredi.
Mercredi.
Ah, oui, mercredi.
C'est ravioli.